Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why, this is
why, this is why I'm hot, hot. France Culture, 19h, donc bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h. Bonsoir à tous. La culture donc une politique publique ou une affaire privée, tel est le sujet de cette émission ce soir. Et au-delà d'un titre volontairement polémique, puisque la culture est depuis longtemps une affaire à la fois publique et une affaire privée, et souvent dans le cinéma, dans le livre, dans la musique et encore plus dans les arts plastiques, un mélange des deux, nous allons nous intéresser ce soir aux mutations de la politique culturelle. Mécénat, fondation, baisse des budgets des collectivités territoriales, affaiblissement du poids politique aussi des ministres de la culture, que ce soit sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande. Bref, une politique culturelle qui se cherche et qui est depuis plusieurs années, dit-on, à bout de souffle. L'un des premiers à avoir fait ce diagnostic critique, c'est vous, Jean-Jacques Ayagon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été président du Centre Pompidou, président du Château de Versailles et surtout ministre de la Culture de Jacques Chirac de 2002 à 2004. Avec vous ce soir, on évoquera la collection Pinault. Vous en êtes le conseiller culturel. Et cette collection va rejoindre la Bourse de Commerce à Paris dans quelques mois. On parlera aussi des fondations et du mécénat. Je rappelle qu'on vous doit la loi Ayagon, justement, sur le mécénat, des primaires à droite et de la culture, sujet d'actualité. Et puis, cela nous fait plaisir aussi de vous recevoir pour prendre de vos nouvelles et savoir, je ne sais pas, ce que vous lisez, les expositions que vous visitez, etc. Bref, Jean-Jacques Ayagon, à 360 degrés ce soir, un grand invité et un portrait, disons, large sur France Culture pendant une heure. Vous êtes prêts ?
Merci, je suis prêt.
À mes côtés ce soir pour vous interroger, Léa Lejeune de Challenge. Bonsoir Léa.
Bonsoir Frédéric.
Avec vous, on parlera d'Apple notamment, et puis du groupe Pinault à l'occasion, puisque nous en recevons l'un des amis de François Pinault avec Jean-Jacques Ayagon. On écoutera également au cours de cette émission Franco-Chien, Nick Cave et Terence Blanchard, tout cela dans Soft Power. Jusqu'à 20h, cette émission est réalisée ce soir par Philippe Baudouin avec en régie Luc Availlant. Elle a été préparée par David Laveau. Et bien sûr, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission, et comme chaque semaine désormais, je retiens dans l'actualité un événement, un livre, un sujet que j'ai aimé, ou un coup de cœur, disons, un exercice d'admiration, et je l'ai choisi un peu pour vous, Jean-Jacques Ayagon, en quelque sorte. Ce soir, Black Mountain College. En ce moment, on parle en effet beaucoup dans les milieux culturels américains de Black Mountain College. Il s'agit d'une expérimentation originale qui a eu lieu entre 1933 et 1957 en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cette petite université, elle a été l'une des matrices de l'art américain, puisque des artistes comme Willem de Kooning, Robert Motherwell, Say Twombly, John Cage ou le chorégraphe Merce Cunningham y ont fait leur classe, sans oublier plusieurs architectes exilés du Bauhaus allemand. Les étudiants de Black Mountain College suivaient une formation très spartiate, mi-agricole, mi-culturelle, basée sur les principes éducatifs progressistes du philosophe John Dewey, apprendre en faisant. Une vingtaine d'étudiants chaque année, une dizaine d'enseignants, bref, tout ce petit monde vivant et apprenant ensemble dans la montagne. L'influence de Black Mountain College, aventure universitaire innovante et je dirais presque néo-rousseauiste, bien que de courte durée, est impressionnante. Ce fut un véritable incubateur artistique. L'expérience a donné lieu à plusieurs livres, dont une biographie signée Martin Duberman, ou encore le passionnant Black Mountain College Experiment in Art, qui est un catalogue paru aux éditions MIT Press. Et puis une exposition qui circule en ce moment. Elle était présentée récemment à Boston. Elle est actuellement à l'université publique de l'Ohio et elle sera bientôt en Europe. Le catalogue de cette exposition, baptisé Leap Before You Look, est publié aux presses universitaires de Yale. On peut lire enfin un long article sur Black Mountain College qui vient d'être publié dans la New York Review of Books sous le titre « Une formidable université éphémère ». Rebonsoir Jean-Jacques Ayagon.
Bonsoir.
Alors avant de commencer cette émission par l'actualité, comme chaque semaine, j'aimerais peut-être revenir un petit peu sur votre parcours et puis, comment dire, sur votre état d'esprit. Aujourd'hui, vous êtes ancien ministre de la Culture. Ça vous impose des responsabilité, ça vous engage, ça vous oblige? Comment vous vous situez par rapport à cette ancienne fonction?
Je crois qu'on ne peut pas avoir exercé une responsabilité comme celle-là et devenir indifférent, pardonnez-moi, on doit rester indépendant, mais devenir indifférent à l'état de la culture et à l'état de la diffusion culturelle dans notre pays. Bon, je crois qu'il faut bien se garder, comme ancien ministre, de toujours être tenté de donner des leçons à ses successeurs. C'est une pente qu'on peut épouser psychologiquement assez facilement.
Et vous l'avez fait pendant quelques années.
Il m'est arrivé de le faire, mais le temps est lâche faisant. Bon, j'essaie de m'en garder, mais voilà, j'ai toujours de l'intérêt pour le débat sur la politique culturelle et sur la chose publique, tout simplement.
Alors vous êtes conseiller, je l'ai dit, conseiller culturel de la Fondation Pinault, en l'occurrence même de Monsieur Pinault lui-même, François Pinault. Vous sortez, vous allez aux expositions, c'est un emploi du temps très culturel qui est le vôtre.
On essaie de l'avoir, bon ça fait... Mon activité professionnelle consomme beaucoup de mon temps, mais c'est ce que j'ai notamment essayé de faire pendant cet été, que j'ai passé en Bretagne, donc loin de tout.
Vous avez lu cet été?
Dans le Finistère, j'ai beaucoup lu des livres qui m'ont en général passionné.
Par exemple?
Écoutez, un petit livre d'Éric Vuillard sur le 14 juillet, donc un autre récit possible du 14 juillet. J'ai été professeur d'histoire et de géographie, donc je garde un tropisme très, 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 très radical qui me conduit vers l'histoire. Et donc également un autre petit essai de Stéphane Haute-Guy sur le dernier lion de la ménagerie royale à Versailles, qu'on a trimballé ensuite, la ménagerie Fermant, au moment où la famille royale a quitté Versailles, qu'on a trimballé jusqu'au Jardin des Plantes, donc le futur muséum d'histoire naturelle, le titre de cet essai historique sous forme de roman, c'est « Le lion personne ». Et par ailleurs, comme je vous le disais, je m'intéresse toujours beaucoup aux politiques culturelles. Je viens de lire un petit livre vraiment formidable de Fabien Janel, qui a exercé des responsabilités au ministère de la Culture au cours des décennies écoulées. Il a notamment dirigé un organisme de diffusion artistique qui s'appelle l'ONDA et qui vient de produire un petit livre dont le titre, je regarde ma note pour être tout à fait exact, pour une politique du spectacle vivant, avec une remarquable préface de Bernard Latargé, qui, vous savez, a joué également dans le paysage culturel.
Comme conseiller culturel de François Mitterrand,
un rôle très très important, et je me suis souvent retrouvé d'ailleurs dans cette histoire qu'évoque Fabien Janel. Et puis, parce que quand même, j'aime par-dessus tout ce qu'il est convenu d'appeler les arts plastiques, j'ai lu récemment un petit essai de Colin Lemoine, donc un de vos collègues journalistes, qui a produit un petit essai sur la question de la relation entre Giacometti et Bourdel. Donc entre un artiste qui a été l'élève d'un autre artiste et qui s'est émancipé de cet artiste. Voilà. Un très beau, je peux recommander ça à nos auditeurs, un très bon roman d'un Espagnol, de Javier Cercas, dont le titre est L'Imposteur. L'Imposteur, c'est un très très beau livre.
Chez
Actes Sud. Tout d'ailleurs comme...
C'est quoi l'histoire d'Imposteur?
Tout à fait. C'est l'histoire d'un type qui, après la guerre, s'est fait passer pour un ancien déporté à Mauthausen, et qui donc joue dans les associations d'anciens déportés, également dans toute la vie civique espagnole, un rôle très très important, jusqu'à ce qu'on découvre en effet qu'il est porteur d'une histoire inventée de toutes pièces. C'est une histoire terrible, naturellement.
Vous allez voir des expositions, vous êtes nécessairement...
Écoutez, j'essaie d'aller voir des expositions, et puis j'essaie d'aller voir aussi des expositions qu'on ne va pas voir spontanément. J'aime bien parfois aller plus loin que le périphérique. Alors naturellement, j'essaie de voir notamment les très bonnes expositions du Centre Pompidou-Metz, puisque j'ai joué un rôle important dans la création de cet établissement. Actuellement, le Centre Pompidou-Metz présente un choix d'œuvres de la collection du musée de Sarrebruck, fermé pour travaux. Et je trouve qu'il y a là un choix d'œuvres françaises et allemandes tout particulièrement remarquable. Et par ailleurs, Emma Lavigne, la nouvelle directrice du Centre Pompidou-Metz, présente également un ensemble d'œuvres de la collection du Centre Pompidou sous le titre de Musique Circus. Bon, par ailleurs, tout récemment, les hasards de ma vie professionnelle ont fait que je suis revenu à Venise pour Palazzo Grassi et Point de la Douane. Donc j'ai revu l'exposition Polke de Palazzo Grassi, et là, sans aucun chauvinisme, je dirais qu'elle est tout à fait, remarquable. Et j'en ai profité aussi pour aller voir au Guggenheim, à Venise, une exposition sur la création italienne des années 60-70 avec des artistes que j'aime beaucoup, comme Fabio Mauri, par exemple. Voilà, donc vous le savez. On pourrait aussi parler d'ailleurs des expositions dans les galeries, parce qu'on a trop à cantonner notre curiosité, notre discours sur les expositions à celles qui se déroulent dans des institutions publiques, alors que les galeries souvent font un travail tout à fait remarquable d'exploration, y compris d'ailleurs d'exploration de l'histoire de la création récente. Je pense notamment aux galeries de design. La galerie Pascal Couturier, rue de Seine, présente par exemple actuellement une exposition consacrée à René-Jean Cayette, donc l'un des créateurs de l'après-guerre en France. Donc c'est ces créateurs qu'on a un peu oubliés qui aujourd'hui se révèlent. Et je tiens par-dessus tout également à signaler, je fais de la prescription là, l'exposition Roger Talon. Voilà, de l'exposition Roger Talon au Musée des Arts Décoratifs. Vous savez que j'ai de façon éphémère présidé les Arts Décoratifs. Bon, je garde toujours beaucoup d'affection pour cette institution. Je siège toujours à son conseil d'administration. Et donc là, le Musée des Arts Décoratifs, remarquablement dirigé par Olivier Gabay, présente une exposition à Roger Talon, donc ce grand créateur qui a fait descendre l'art dans la rue et sur les rails, puisqu'il a travaillé pendant plusieurs décennies pour la SNCF et qu'il est l'un des grands du matériel roulant.
Et puis, puisqu'on parle de recommandations dans les arts plastiques, et notamment de lieux un peu iconoclastes, qui ne sont pas forcément attendus, on peut signaler, ce sera le week-end prochain, lors des journées du patrimoine, 17 et 18 septembre, l'exposition à la chapelle Hainek, à laquelle vous avez contribué d'une certaine manière.
Oui, donc Kering, dont Léa va sans doute nous parler.
Qui est l'entreprise de François Pinault.
Filiale du holding familial
Pinault. Ex-PPR.
Ex-PPR, oui. Donc, je viens de s'installer dans les bâtiments de l'ancien hôpital Hainek, rue de Sèvres. Bon, ça a été sous l'ancien régime l'hôpital des Incurables, donc un magnifique bâtiment du début du XVIIe siècle, en style Louis XIII, pierre et brique, et d'ailleurs souvent fausse brique. Et donc au milieu de ce corps de bâtiment, il y a une chapelle dans laquelle François Pinault a suggéré à son fils, qui est patron de Kering, à François-Henri Pinault, de présenter un ensemble d'œuvres de la collection Pinault. Donc on a choisi un nombre limité d'œuvres, mais des œuvres qui ont un rapport avec le sacré, avec l'iconographie sacrée. Et parmi ces œuvres, il y en a une d'un artiste qui vous est, je crois, tout particulièrement cher, c'est Andrés Serrano. Donc un travail d'après la scène de Léonard de Vinci. C'est une œuvre qui fait partie de la série des immersions. Donc ces images ou ces petites reproductions d'une œuvre,
voilà,
trempées dans un liquide. Là, le liquide a l'air extrêmement vaporeux. On voit des bulles.
Parfois c'est du sang.
Ça peut être du sang.
De l'urine.
De l'urine ou des boissons gazeuses peut-être. Et donc ça produit. Et cette œuvre, nous l'avons placée dans l'axe de la chapelle, donc devant le maître-autel, et vous le verrez. Il y a là également des œuvres de Maurizio Cattelan, Hall de Maurizio Cattelan, et quelques autres grands chefs-d'œuvre, dont une œuvre majeure de Marlène Dumas.
André Serrano.
Et ce sera ouvert au public pour les journées du patrimoine.
Il y avait d'ailleurs une très belle exposition qui vient de fermer au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique autour de l'œuvre rétrospective générale, l'œuvre d'Andrés Serrano, ses photos à la morgue, son histoire du sexe, son extraordinaire photo de Donald Trump, je crois, qui date des années, du début des années 2000, les cartons des SDF et tous les fluides dont vous parliez, ainsi que Red Pop ou encore la Pietà, et puis bien sûr Peace Christ, l'œuvre célèbre qui avait été vandalisée à la Fondation Yvon Lambert. Il y a quelques années.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h14, on est ensemble jusqu'à 20h avec vous, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture. Vous avez été aussi président du Château de Versailles, président du Centre Georges Pompidou, et vous êtes aujourd'hui conseiller culturel de François Pinault, et notamment on va parler dans un instant de la collection Pinault qui va arriver à la Bourse de Commerce aux Halles d'ici quelques temps, mais peut-être juste avant avec vous, Léa Lejeune, une question d'actualité. On a beaucoup parlé ces derniers jours à cause de la tension relation, le bras de fer qui existe entre Apple et Bruxelles, notamment via et à travers l'Irlande, mais aussi ces derniers jours grâce au lancement, à partir du lancement de l'iPhone 7 et 7 Plus qui vient d'être annoncé, qui sortiront cette semaine, la bataille Apple et la Commission européenne, Léa Lejeune. Donc sur ce sujet, on a l'impression que Apple a engagé une bataille avec Bruxelles. Comment est-ce que vous voyez ce débat ?
En fait, c'est un bras de fer que Bruxelles mène depuis un certain temps, représenté par la commissaire européenne à la concurrence qui s'appelle Margrethe Vestager. C'est d'essayer de corriger ces entreprises américaines, notamment dans la tech, puisque ce sont elles qui ont le plus de ces pratiques, qui ne payent pas une partie des impôts que l'on soupçonne qu'elles devraient régler dans certains pays européens. Alors pour Apple, c'est 13 milliards d'euros, c'est pour l'Irlande, mais c'est aussi le cas pour Google, dont il y a eu tout un questionnement l'an dernier de savoir si Google déclarait toutes ses activités en France et s'il y avait un retard d'impôts.
Mais on voit bien là en l'occurrence que les politiques culturelles sont confrontées. Jean-Jacques Ayagon, il y a quelques années, on ne parlait ni d'Apple ni de Google. La politique culturelle française vivait bien dans son petit hexagone. Aujourd'hui, elle est confrontée à ces géants que la Commission européenne essaye d'obtenir tout simplement que Apple, mais aussi Google, Uber et d'autres, Starbucks, payent leurs impôts en France. Ça vous paraît évidemment légitime, mais quel est votre point de vue sur cette question ?
Pour moi, la question, elle est, c'est la question de l'identité, de la nature de l'Europe, et notamment la question de l'harmonisation des politiques fiscales dans les différents pays d'Europe. Il y a aujourd'hui, et je suis pour ma part très attaché à la construction européenne. Je suis pour une Europe très très largement intégrée, avec notamment des politiques fiscales totalement convergentes. Mais qu'on puisse admettre dans un espace qui est théoriquement solidaire des disparités qui vont du simple au double, et même plus d'ailleurs.
Oui, c'est 35% pour l'impôt sur les sociétés en France en moyenne, et c'est 12% en Irlande.
En Irlande,
on comprend que les sociétés aillent là-bas.
Il est évident qu'on n'est plus là dans un espace solidaire.
Et c'est même légal, c'est ça le problème.
C'est légal, c'est tout à fait légal d'ailleurs. Mais là, on voit bien que les pays se font du dumping, se font concurrence
déloyale.
C'est de la concurrence. Elle est dans l'état des choses admissibles, mais ce qu'il faut rechercher, et je crois que ce sera d'ailleurs peut-être pour le prochain président de la République un exercice prioritaire, il faut tendre aujourd'hui vers une Europe plus largement intégrée, où ces situations de disparité et de différences fiscales seront totalement éradiquées.
Alors parallèlement, on a Apple qui lance ses nouveaux iPhones cette semaine. On en parle non pas pour faire simplement mention de ça, mais parce que c'est souvent l'occasion de révolutions technologiques. Et en l'occurrence, on ne sait pas trop ce que l'iPhone 7 et 7 Plus vont, ce sur quoi ils vont déboucher, mais on a quand même l'impression qu'en termes d'image et en termes notamment de caméra, il y a un pas de plus qui a été franchi.
Alors d'ailleurs, justement, la question, c'est que sur le nouvel iPhone, l'iPhone 7 et 7 Plus, on avait des attentes qui étaient très fortes, surtout les fans d'Apple, des nouvelles innovations, des nouvelles choses qui se développent, et finalement, ce nouvel iPhone, on l'a décrit avec ce qui lui manquait. Alors, il lui manque la prise jack, donc il lui manque le casque qu'on a l'habitude d'utiliser avec son téléphone. Il y a un autre système qui est proposé avec des petits écouteurs Bluetooth. Il lui manque plein de nouvelles innovations, de nouvelles idées. Alors, il y a plein d'innovations incrémentales, donc des petits plus auxquels on ne s'attendait pas forcément, un processeur 40 fois plus rapide, le fait que l'iPhone soit étanche, parce que énormément de gens perdent leur iPhone dans les toilettes,
tomber,
en
oui,
le faisant tomber dans les toilettes, dans l'eau,
l'évier,
à la piscine,
ouais,
etc. Donc ça, c'était important.
Et je crois que c'est toujours horrible de voir un iPhone tomber dans l'évier, parce qu'il a quelques encore lueurs, il clignote un petit peu, et puis il s'éteint. Et c'est fort toujours.
Là,
c'est vrai
thèses,
pour tous les smartphones d'ailleurs.
Il ne faut plus s'approcher d'un évier.
C'est ça l'idée.
Donc je crois que la véritable innovation, c'est en fait la double caméra qui a été installée sur cet iPhone.
Caméra qui est liée à un software et un algorithme qui devrait produire des images, dit-on, qui vont révolutionner la manière tout simplement de l'industrie de l'image, de prendre
des
images.
Oui, on dit que c'est du niveau professionnel. Et finalement, ça découle de tout ce qu'on a vu dans les innovations dans les téléphones et iPhones jusqu'à présent. C'est vraiment que maintenant, on a un appareil photo de qualité quasiment professionnelle dans un minuscule smartphone.
Jamais on a eu, Jean-Jacques Ayagon, au fond, autant de caméras, d'appareils photo vendus dans le monde grâce à ces smartphones que tout le monde a. Tout le monde devient photographe, tout le monde devient un peu caméraman. On poste ça sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Comment est-ce qu'un ancien ministre de la Culture comme vous et quelqu'un qui a été dans l'art au Centre Pompidou, à Versailles, etc., réagit à ces mutations quasi quotidiennes qui sont complexes aussi à suivre?
Écoutez, moi j'ai le sentiment vraiment d'avoir dans l'espace de ma vie vécu des révolutions. J'ai connu un monde où le téléphone fixe était encore très peu partagé. Puis j'ai vu un jour apparaître des télévisions, j'ai vu apparaître des Minitel, j'ai vu apparaître des portables. Ces portables dotés de capacités de plus en plus larges, de plus en plus performants. Il est évident que ce sont des outils formidables qui permettent un accès très très large, d'une part à la communication, à l'échange, mais également à des informations, à des données qui permettent à chacun en effet d'enregistrer des images. On voit bien dans les musées aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très ambigu, que beaucoup de visiteurs passent plus de temps à photographier les œuvres ou à capter les œuvres devant lesquelles ils passent qu'à les regarder.
Ça Est-ce devient... que vous le faites vous aussi,
non,
utiliser les réseaux
pas.
Sociaux
Il m'est arrivé de le faire, notamment pour travailler. Quand je vais dans un musée et que je vois une œuvre qui m'intéresse et que je pense qu'elle pourrait prendre place dans une exposition que je vais faire, je photographie son cartel de façon à mémoriser l'information. Mais je ne suis pas très... Je n'ai jamais fait
très
de photographie.
Geek.
Voilà, je n'ai jamais fait de photographie.
Mais est-ce que vous comprenez qu'un poète doit être sur Instagram, ce qu'on appelle les Insta-poètes, les gens qui s'intéressent aux livres deviennent des booktubers, on a le hashtag Igers pour toute personne qui est sur Instagram. Tout ça vous paraît un langage passionnant ou au contraire inquiétant ?
Non, mais écoutez, moi je crois que, vous savez, je crois que c'est réellement passionnant, mais dans toutes les révolutions techniques qu'a connues l'humanité, la question s'est toujours posée de savoir quel usage on en ferait. Mais je crois qu'il ne faut pas réprouver les innovations, même quand elles sont radicales, au prétexte qu'elles pourraient générer des postures inadaptées. Vous savez, quand au moment de l'invention de la locomotive et l'installation de lignes ferroviaires, certains maires tentaient de s'y opposer en prétendant que le train rendait fou et que d'ailleurs le bruit produit empêcherait les vaches de fabriquer du lait, etc.
Et qu'on mourrait asphyxié.
Donc on a
tellement
vu des villes,
vite,
oui. On a vu des villes refuser que le chemin de fer passe sur leur territoire. C'était le cas d'Orléans. C'est pour ça qu'à Orléans, la gare est aux Aubrais. Je crois que ces villes s'en sont mordues ensuite les doigts. Nous avons aujourd'hui des outils formidables qui nous permettent de démultiplier notre regard, démultiplier notre intelligence. Le tout, c'est de faire en sorte que tout ça soit utilisé à des fins positives et que ça serve l'échange et la création.
Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, conseiller de François Pinault, conseiller culturel, est mon invité jusqu'à 20h. Vous pouvez lui poser vos questions ainsi que sur la politique culturelle sur les réseaux sociaux, justement, au hashtag SoftPower. Sur France Culture, à 19h24, on écoutait Nikes, extrait du dernier album de Frank Ocean. Le titre de l'album d'ailleurs s'appelle Blonde. Un album qui sème la zizanie dans l'industrie musicale. Frank Ocean était en effet sous contrat avec Universal pour son second album, mais il a habilement mis un terme à ses obligations en dévoilant tout simplement un clip de 45 minutes, lequel a été considéré comme l'album tant attendu. Et puis pourtant, moins de deux jours après, il a sorti en exclusivité sur iTunes et Apple Music son véritable deuxième opus sous le giron de son propre propre label indépendant. On comprend qu'Universal ait mal réagi, soit très mécontent de cette affaire. Et du coup, pour minimiser le rôle des plateformes de streaming, le PDG d'Universal Music a demandé aux différentes divisions du label d'arrêter de signer des exclusivités avec des services de streaming, hein, tels Spotify, Apple Music, Tidal ou encore Deezer. Si vous allez sur Spotify, vous verrez que l'album de Franck Ocean est annoncé et qu'on nous dit qu'ils sont en train d'essayer d'en avoir les droits, mais qu'ils l'ont toujours pas. Bref, affaire à suivre pour voir si les rapports entre majors et plateformes de streaming en seront ou pas durablement affectés.
Soft Power, le magazine des internets de France Culture. Frédéric Martel.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir encore une fois, Jean-Jacques Gagon. On va parler maintenant de la collection Pinault. On reviendra tout à l'heure sur le mécénat public-privé. Et puis enfin, on vous interrogera sur la politique culturelle. Trois parties hein, pour la deuxième partie de cette émission. Le projet de collection Pinault, c'est un projet qui naîtra à la Bourse de commerce, au HAL. Quand est-ce qu'on en attend l'ouverture? En quoi consiste ce projet et est-ce que le permis de construire va être donné?
Je l'espère. Tout d'abord, la Bourse de commerce Collection Pinault devrait ouvrir au mois d'octobre 2018.
Donc dans deux ans.
Vous le savez, c'est cette année, juste avant l'été, que la ville de Paris a consenti à François Pinault la concession de la Bourse de commerce pour une durée de 50 ans. Aussitôt, François Pinault a chargé un architecte avec lequel il a déjà travaillé, Tada Ando, de concevoir le projet de réaménager.
Architecte japonais.
Voilà, un architecte japonais.
Le projet avec qui il avait d'ailleurs beaucoup travaillé déjà. Il avait déjà travaillé.
Ah ben, il a beaucoup travaillé, c'est Tada Ando.
Pour le Palazzo Grassi.
C'est Tada Ando qui a réaménagé Palazzo Grassi et surtout la pointe de la douane et reconstitué le Teatrino sur le flanc de Palazzo Grassi, donc un lieu pour le débat, pour les projections, pour les concerts, un petit théâtre en quelque sorte. Donc c'est Tada Ando qui a été chargé du chantier de la Bourse de commerce. François Pinault l'a associé à une équipe de jeunes architectes français, l'agence NEM, Lucie Ninet et Thibault Marca, et un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gattier. Le bâtiment est en effet protégé en plusieurs parties.
Donc ça, c'est pour s'assurer que tout va bien se passer.
C'est pour faire en sorte que les parties historiques du bâtiment soient respectées et mises en valeur. Je crois qu'on peut, beaucoup d'exemples l'illustrent, on peut tout à fait introduire un travail d'architecture d'aujourd'hui dans un bâtiment historique, à condition naturellement de respecter l'esprit du bâtiment et d'en respecter toutes
les
configurations.
Donc la Bourse de commerce va quitter, les équipes vont quitter
la Bourse de commerce au sens professionnel. Du terme avait quitté le bâtiment de la Bourse de commerce depuis longtemps. Aujourd'hui, le travail de Bourse de commerce ne se fait plus dans un bâtiment autour d'une corbeille, ça se fait sur Internet.
Le
bâtiment était occupé par des bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui, dans le cadre d'un accord avec la ville de Paris, vont d'ailleurs se déployer sur d'autres sites. Le bâtiment, à vrai dire, n'était pas très adapté.
Donc il sera vide à partir de...
La Chambre de commerce aura totalement quitté les lieux le 1er janvier, et donc c'est à ce moment-là que pourront commencer les travaux.
Le permis de construire devrait venir vers...
La demande de permis de construire sera déposée dans le courant à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, et puis ensuite il appartiendra au service de la ville de Paris de l'instruire et au service de l'État d'examiner justement le volet monument historique l'autorisation
de travaux. Le statut juridique de cette collection Pinault, quel sera-t-il?
Pour ce musée, nous avons créé, comme nous l'avions fait pour Palazzo Grassi et Point de la Douane, une société, anonyme. Donc à Venise, c'est une société anonyme qui s'appelle Palazzo Grassi SPA qui gère les deux bâtiments de Palazzo Grassi et de la Pointe de la Douane, puisque la Pointe de la Douane a été concédée par la ville de Venise à cette société Palazzo Grassi. Il s'agissait tout simplement d'ailleurs de la société de l'époque Fiat. Hein, la société avait été créée par Gianni Agnelli et c'est cette société que François Pinault a rachetée. Donc pour Paris, nous avons procédé de la même façon. Nous avons créé une société, Bourse de commerce, Collection Pinault, qui est titulaire de la concession.
Pour 50 ans.
Pour 50 ans.
Léa Lejeune ?
Ce projet a l'air de bien se dérouler, mais je me souviens qu'il y a 11 ans, il y avait eu un premier projet d'installer une partie de la collection de la Fondation Pinault en Ile-de-France, à Lille-Seguin. Puis finalement, ça a été très difficile d'obtenir des autorisations administratives, politiques. Cette fois-ci, on a l'impression que Anne Hidalgo vous a déroulé le tapis rouge, si j'ose. Elle est d'accord pour mettre 20 21 millions d'euros dans les travaux. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire qu'elle fait, Anne Hidalgo, là-dessus?
Et est-ce que c'est une revanche pour François Pinault?
Les choses sont... Tout d'abord, en effet, le projet de François Pinault pour l'île Seguin n'a pas abouti, tout simplement parce que les difficultés administratives étaient trop nombreuses. Le plan local d'urbanisme de la ville de Boulogne n'était pas purgé de tous les contentieux. Les travaux avaient du mal à commencer. La société d'économie mixte chargée de l'urbanisation du reste de l'île Seguin n'avait engagé aucun projet sérieux. Donc rien ne pouvait assurer que si ce musée avait été construit, qu'il se retrouve dans un environnement réellement urbanisé. Et vous l'observez d'ailleurs, il aura fallu du temps pour qu'enfin des projets émergent sur l'île Seguin.
Notamment avec le groupe immobilier Emery, j'ai, je crois, Nelly Wenger, qui dans ce qu'on appelle le R4, vient d'annoncer que ce projet aurait lieu avec une vocation culturelle.
Tout à fait, tout à fait. Le maire de Boulogne, finalement, de l'époque, c'était Fourcade, pensait que, qu'il n'y avait pas de risque de départ de François Pinault. Il connaissait mal l'impatience de cet homme, et qui a d'ailleurs, dans un article, dans une tribune parue dans Le Monde, rappelé que le temps de l'entrepreneur n'est pas le temps des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics savent s'engager dans des projets dont l'aboutissement est parfois extrêmement laborieux, avec des remises en cause, des rebonds, et tout projet met parfois 10 ans et plus de 10 ans avant d'aboutir. Lui, il avait envie, il avait engagé ce projet en 2000. En 2005, ça piétinait toujours, donc il a décidé d'y mettre fin. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la résolution, parce qu'il avait quand même très envie de montrer sa collection quelque part, d'acquérir Palazzo Grassi. Et ensuite, ce domaine de Palazzo Grassi s'est étendu grâce à la concession de la pointe de la douane.
Donc tout ça à Venise. La collection Pinault, quelle est son ampleur? Quels sont les artistes? On dit qu'il y a plus de 3000 œuvres.
Oui, enfin, il y a plusieurs milliers d'œuvres. Bon, il est évident que... aujourd'hui, on en a fait le calcul récemment. À ce jour, je crois que c'est à peu près 1 millier d'œuvres. En 10 ans, 1 millier d'œuvres qui a été présenté à Venise entre Palazzo Grassi et Pointe de la Douane. Donc, il y a encore de quoi montrer. C'est une collection ample et surtout une collection qui s'accroît quasiment chaque jour. Mais pour revenir, madame, à votre question, la maire de Paris, en l'occurrence, a été extrêmement volontaire. Vous le savez, elle attache beaucoup d'importance au réaménagement du centre de Paris, au réaménagement du quartier des Halles. On l'a vu avec la canopée, avec le nouvel aménagement des jardins. Donc elle avait à cœur qu'à l'extrémité de ce panorama, de ce paysage, de cette perspective, la Bourse de commerce occupe une place importante et qu'elle soit dotée d'une fonction culturelle.
On peut espérer que de ce côté-ci idéal, donc côté Bourse de commerce, ce sera plus réussi que de l'autre côté, à savoir la canopée que vous citiez.
Mais Tadaando est un grand architecte, donc il y a tout lieu d'espérer que son projet sera à la fois brillant et respectueux.
Sur l'ampleur de la collection, peut-être quelques noms des artistes principaux de cette collection qu'on connaît, mais qui méritent peut-être d'être...
Pour citer quelques expositions récentes, récemment le Centre Pompidou a présenté une exposition Martial Reiss, dont le principal prêteur était François Pinault, qui d'ailleurs a présenté une exposition Martial Reiss à la Pointe de la Douane. Actuellement, l'exposition Paul Keul, donc l'un des grands artistes européen du XXe siècle, est constitué très très largement d'œuvres de la collection Pinault, mais également d'œuvres naturellement empruntées à d'autres collections publiques et privées.
Il a revendu ses premières passions. On sait qu'il avait acheté un Mondrian quand il était jeune, du Jasper Johns, il a des Warhol, tout ça. Et on a l'impression qu'il a évolué de l'art moderne à l'art contemporain, avec évidemment Jeff Koons, Damien Hirst, Catlin, Richard Serra, etc. Quel genre de collectionneur, François
Pinault? C'est un collectionneur qui ne vient pas d'un terreau académique, universitaire, ou dont la famille a été une grande famille de collectionneurs. Il vient d'une famille de paysans bretons.
On dit qu'il est allé dans un musée pour la première fois à 30 ans.
Il est allé assez tardivement, il s'est ouvert le regard progressivement. Quand il a commencé à vouloir acheter de l'art, il a acheté de l'école de Pont-Aven, il était breton. Donc il a acheté de l'école de Pont-Aven, ensuite il...
On vous voit faire une grimace.
Non, mais je veux dire, c'était assez spontané. Et pourquoi pas d'ailleurs, ensuite sa curiosité s'est aiguisée. C'est là qu'il a acheté en effet un Mondrian majeur. Et puis il s'est dirigé vers l'abstraction américaine et vers l'abstraction européenne. Et progressivement, sa curiosité popularité s'aiguisant, sa disponibilité également.
Pour aller voir des artistes, visiter des œuvres.
Visiter des ateliers, visiter des artistes. Je crois le fait qu'il ait, à l'âge de 63 ans, passé le relais de ses affaires à son fils, à François-Henri Pinault, désormais président de Kering, lui a donné une très très grande disponibilité.
Il a plus de temps.
Voilà. Donc il s'occupe essentiellement, en effet, de l'art. Cette semaine, nous allons ensemble rendre visite au consortium à Dijon, voir une exposition consacrée à White Gayton. Donc oui, bon, je n'accompagne pas systématiquement, mais il passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps à aller voir des artistes.
Il a dit, ce n'est pas mon mausolée que je ferai à la bourse de commerce.
Voilà, il se rend bien compte qu'il ne faut pas faire... Il a toujours le souci que, dans les lieux où il expose sa collection, ce soit les artistes qui soient mis en avant et non pas lui-même. D'ailleurs, il parle peu, il est pudique. On l'a mille fois sollicité pour des émissions de radio, de télévision.
Critique.
Mais voilà.
C'est au fond Jean-Jacques Aïgon, presque son porte-parole qui
non,
vient...
Non, mais écoutez, j'essaie de parfois de traduire sa pensée. Je n'ai pas de mission de porte-parole, mais c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, tout d'abord, beaucoup de considération. Je ne pense pas toujours surtout comme lui. Il y a des artistes qu'il aime et que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aime. J'ai finalement un goût peut-être plus... Mon goût me porte souvent vers le bizarre. C'est un goût qu'il ne partage pas, mais on peut être différent et par ailleurs s'apprécier.
Critique très sévère d'une élue de gauche radicale au Conseil de Paris à propos de cette collection. Elle dit, je la cite, « Monsieur Pinault aurait dû donner sa collection à l'État ». C'est vrai qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, on crée son musée.
Oui, bon, vous savez, l'État a déjà des collections considérables qu'il ne sait pas très bien gérer. J'aimerais bien que les immenses collections du Musée national d'art moderne, riches de 60 000 pièces, soient un peu plus montrées. Je crois que ce n'est pas le moment d'accroître la charge qui écrase la capacité de l'État aujourd'hui. Et puis d'autre part, une collection privée, c'est une collection très dynamique. Vous savez, les collections publiques sont frappées par la règle qu'on peut apprécier ou qu'on peut contester de l'incessibilité, elles sont inaliénables. Et donc ce sont des collections qui se sédimentent, où les choses se posent les unes sur les autres à perpétuité, alors que dans une collection privée, on peut tout à fait décider un jour d'acheter une pièce et puis de la revendre et puis d'en acheter une autre. Donc il y a une mobilité qui est beaucoup plus grande et que je trouve extrêmement dynamique. Je crois d'ailleurs qu'un jour, il faudra que la puissance publique s'interroge sur cette règle de l'inaliénabilité pour les collections publiques, en tout cas pour les collections publiques contemporaine. Parce que faire une collection, ce n'est pas simplement acheter un jour et puis paresseusement attendre que le temps fasse son travail de tri. C'est également sans cesse se poser la question de l'intérêt d'une pièce pour une collection et pour le public.
Vous savez que c'est un point de débat très violent, y compris au Guggenheim, comme vous le savez, aux États-Unis, au Whitney Museum, avec notamment souvent la France, les ministres de la Culture, les responsables français qui disent, nous justement, on est contre cette capacité de pouvoir revendre éventuellement une œuvre, on est pour l'inaliénabilité de ces œuvres.
Je le sais, mais en même temps, j'ai toujours estimé pour ma part que faire une collection, c'était un exercice dynamique, qu'on prenait des risques en acquérant, qu'il fallait aussi savoir prendre des risques éventuellement en aliénant, que naturellement, il fallait appliquer à tout ça des règles, qu'on puisse aliéner que dans les mêmes formes où on a acquis. C'est-à-dire que ce ne soit pas l'autorité du ministre ou du maire qui décide d'une aliénation, mais vraiment les mêmes conservateurs qui ont acheté. D'autre part, que le produit de l'aliénation soit tout entier consacré à d'autres acquisitions.
Et d'autre part... Alors le contre-argument, c'est de dire que le MoMA s'est séparé d'un certain nombre de ses œuvres, mais ça lui a permis d'acheter les Demoiselles d'Avignon. Donc,
voilà, il faut en effet... Je crois qu'il faut avoir une vision à la fois... Il faut faire confiance en la capacité des conservateurs à bien faire, et puis d'autre part, se dire qu'après tout, il ne s'agit pas de détruire les œuvres. Si un jour on considère qu'on a fait une erreur en vendant une œuvre, qu'il vaudrait mieux qu'elle soit toujours dans la collection, bon, on peut le regretter, mais l'œuvre, elle est toujours disponible quelque part. On peut toujours y accéder, on peut toujours la voir, on peut toujours l'emprunter pour une exposition. Mais alors je sais très bien que c'est un sujet qui divise profondément et qui, en France, donne lieu plutôt à des attitudes critiques, à des attitudes de condamnation. Le monde des musées français est plutôt attaché à la règle de l'inaliénabilité. Mais enfin, c'est un sujet de débat intéressant.
Autre sujet tout proche, vous êtes commissaire d'exposition Jacques Chirac au musée du Quai Branly, un musée d'ailleurs qui porte le nom de Jacques Chirac. L'exposition s'intitule Jacques Chirac ou le dialogue des cultures, elle est visible jusqu'au 9 octobre. Comment est-ce que vous avez réagi au fond à un succès un peu inattendu pour cette exposition ?
Écoute, écoutez, ça m'a... Stéphane Martin m'avait proposé
le président, d'être,
le président du musée du Quai Branly, une vue que j'ai beaucoup travaillé pour Jacques Chirac, à la fois à l'époque où il était maire de Paris, ensuite président de la République. Donc je connaissais bien son action culturelle, m'a proposé d'être le commissaire de cette exposition. J'ai tenté de montrer que Jacques Chirac était un enfant de son temps, et qu'il avait beaucoup reçu du XXe siècle, et que son intérêt pour les grandes civilisations non européennes et pour les arts premiers devait beaucoup à beaucoup de grands prédécesseurs dans ce domaine, à des institutions, à des grandes collections comme Terre humaine, par exemple, créée par Jean Mallory, qui a ouvert l'esprit du grand public à la diversité des cultures et des civilisations. J'ai aussi tenté de montrer qu'il y avait chez Jacques Chirac, comme chez chacun d'entre nous, une sorte de miracle de la personnalité, quelque chose qui l'a poussé de façon très très précoce, dès l'après-guerre, vers les civilisations de l'Asie, par exemple, et qu'ensuite, dans son action publique, il y avait un véritable bilan d'une action culturelle qui a été très sous-estimée et qui est plus importante qu'on ne l'imagine.
Ces pièces à trois pointes indiquent très clairement le ventre et le sexe de la femme, les cuisses écartées et la pointe du haut, le sexe de l'homme. C'est-à-dire un symbole de fécondité qui, je le répète, a marqué toute la civilisation humaine pratiquement dans toutes ses composantes et depuis le néolithique. Il faut la voir avec un peu de distance. Ça permettait notamment aux femmes d'accoucher sans douleur. Paraît-il. Elles appartiennent à des caciques et vous voyez que la partie haute, c'est-à-dire la pointe verticale, n'est plus en forme de sexe d'homme, mais de sein de femme. Et cela signifie qu'il s'agissait d'un cacique femme, parce que les femmes pouvaient devenir caciques.
Le président Jacques Chirac qui intervenait au Petit Palais, c'était en 1994. Il évoquait une œuvre des Indiens Taïno. C'était assez truculent, Jean-Jacques Ayagon, qui s'improvisait guide d'exposition et décrivait comme ça ce passage des sexes.
Oui, mais cette exposition, il avait vraiment voulu. J'étais à ce moment-là directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Je lui ai proposé qu'on marque le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Je lui ai fait quelques propositions. Il m'avait renvoyé ma note barrée d'un trait rouge. En écrivant, non, j'ai une autre idée, venez me voir et on en parlera. Et c'est en allant le voir qu'il m'a dit, écoutez, j'aimerais beaucoup, on va surtout pas célébrer cet anniversaire qui a été un malheur, c'est l'anniversaire d'un malheur pour les peuples de l'Amérique. Ils ont été exterminés, anéantis, leurs cultures ont disparu. Nous allons au contraire rendre hommage aux civilisations précolombiennes, à la civilisation des Taïno-Arawak, que vous connaissez sans doute parfaitement. Je la connaissais très très mal, mais j'ai fait semblant.
Et vous avez rencontré récemment, vous l'avez revu le président?
Ben je l'ai revu tout récemment. Je lui ai fait visiter l'exposition.
Comment va-t-il ?
Il est très fatigué, ce n'est un secret pour personne. Voilà, je crois qu'il est retiré des choses, et retiré du monde aujourd'hui. Il se repose autant que possible.
On est ensemble jusqu'à 20h avec vous, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, conseiller culturel de François Pinault. On est dans Soft Power sur France Culture. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr ou sur iTunes.
You fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours.
un instant Jazz Alone, un morceau extrait du 16e album de Nick Cave. L'écriture de cet album a été marquée par une tragédie qui a frappé le crooner australien. Son fils en effet de 15 ans est décédé en chutant d'une falaise, et l'artiste, ne voulant pas vraiment parler de ça ni en parler aux médias, il a du coup réalisé un documentaire intitulé One More Time With Feeling, lequel montre le processus de création de l'album et l'impact de la tragédie sur la vie et donc l'écriture de Nick Cave.
Soft Power, le magazine des internets de France Culture. Frédéric Martel.
Jean-Jacques Ayago, ancien ministre de la Culture, est mon invité jusqu'à 20h. Nous avons parlé de la collection Pinault et d'ailleurs de François Pinault. Deux derniers sujets dans cette émission, le mécénat et puis la politique culturelle. Sur le mécénat, Léa Lejeune.
Oui, Jean-Jacques Ayago, vous êtes à l'origine de la loi facilitant le mécénat de 2003. Donc c'est une loi qui, notamment par des dispositifs fiscaux, encourage à investir et à faire des dons à des fondations, notamment des fondations d'entreprises. Alors il y a un premier bilan qui a été fait en 2013 lors d'un colloque qui est assez positif. À l'époque, 32 000 entreprises avaient investi grâce à vos dispositifs dans différentes formes de mécénat, l'éducation, la santé, la science, la culture. 5,4 millions de foyers fiscaux l'utilisaient aussi. Il y a un baromètre qui sort tous les ans du club amical qui montre que 170 000 entreprises l'utilisent pour un budget de 3,5 milliards d'euros. C'est de plus en plus gros. Le mécénat culturel est aussi en hausse de 24% cette année par rapport à l'année d'avant. Mais il y a aussi des critiques. On dit que votre loi a aidé l'investissement, le don des grandes entreprises et des ETI et pas vraiment des PME. On dit aussi qu'il n'y a pas assez d'investisseurs privés, de riches donateurs, en gros, comme on en voit beaucoup aux États-Unis. Quel bilan vous faites de votre loi, donc 13 ans après, quelle force, quelle faiblesse?
Écoutez, tout d'abord, c'est une loi qui s'est bien installée dans le paysage, français.
Qui a survécu à la gauche, comme quoi...
Oui, enfin... C'est Aurélie Filippetti qui a célébré le 10e anniversaire de la loi. La Poste a édité un timbre pour célébrer cet anniversaire. Je voudrais juste faire une petite remarque tout d'abord. La loi ne concerne pas que le mécénat des entreprises, mais le mécénat des entreprises et des particuliers.
Et puis pas que la culture, mais tous les secteurs.
Et d'autre part, en effet, elle ne vise pas que le mécénat culturel, mais le mécénat en faveur de toutes les causes d'intérêt général. Si j'avais voulu faire une loi rien que sur le mécénat culturel, il est évident que très rapidement, mes collègues auraient contesté la légitimité de cette loi aussi, d'une loi aussi exclusive. Donc vous évoquez, la loi, naturellement, met en place des aménagements fiscaux, des réductions d'impôts en faveur des particuliers et des entreprises qui consentent à des dons d'argent en faveur de causes d'intérêt général. Alors vous me dites que parfois il y a eu des critiques, j'en suis bien conscient. Aucune loi n'est
Comment on peut faire pour l'améliorer?
Aucune loi
pour
n'est
les
totalement
PME
définitive. Tout d'abord, quand vous êtes ministre de la Culture et que vous faites une loi qui aménage des réductions d'impôts, il est évident que vous travaillez avec votre collègue, le ministre du budget. D'autre part, il faut aussi travailler avec le Parlement, avec une majorité parlementaire qui n'est pas forcément disposée à tout ce que vous voulez. Donc c'est une loi, c'est un compromis entre la volonté du ministre qui est porteur et puis d'autre part, le contexte politique et parlementaire.
Mais sur les critiques, le fait que, par exemple, c'est une loi peu adaptée aux petites entreprises...
Oui, c'est vrai, peut-être, en effet, qu'il y a un plafond de 0,5% du chiffre d'affaires. Il est évident que pour une grosse entreprise, c'est énorme, mais pour une petite entreprise, c'est peu. Il y aurait peut-être lieu, en effet, d'aménager des règles particulières.
Autre critique, vous dites qu'elle a été destinée à la fois aux entreprises, aux fondations d'entreprises et aux individus. On a malgré tout l'impression que les individus, notamment les riches en France, donnent peu par rapport aux États-Unis. Quand on compare aux États-Unis, les individus représentent à peu près un tiers du financement de la culture via la philanthropie, alors que les entreprises représentent à peu près un 20e, c'est-à-dire très très peu. Donc ce sont d'abord et avant tout les individus qui, à titre personnel, avec une défiscalisation sur leur impôt, sur le revenu qui donne aux États-Unis, non pas les entreprises. Or, notre loi a beaucoup ciblé les entreprises.
Oui, là, écoutez, sincèrement, j'ai voulu faire une loi pour les particuliers et pour les entreprises. Le mécénat des particuliers en faveur d'associations culturelles, de la presse, puisque la presse peut accéder au mécénat. On voit régulièrement l'Humanité ou la Croix lancer des appels, les appels aux dons, en précisant que ces dons sont déductibles de l'impôt. Les associations également, l'alimentation d'urgence, les restaurants du cœur. Il y a eu quand même un développement formidable, la générosité des particuliers. Mais n'oubliez pas surtout que la France ou l'Europe, de façon générale, n'est pas dans la même situation que les États-Unis. Aux États-Unis, la fiscalité n'est pas tout à fait de même nature qu'en France. D'autre part, aux États-Unis, depuis longtemps, historiquement, les particuliers riches estiment qu'ils ont à prendre en charge l'intérêt.
À cause du protestantisme, à cause du capitalisme américain,
etc. Les bibliothèques, les musées, tout ce qui en France est supporté et pris en charge par la puissance publique est en général soutenu aux États-Unis par la générosité des particuliers.
On a un peu l'impression que les mots sont un peu piégés toutefois entre la France et les États-Unis, même en France, mécénat, philanthropie, don. Il y a les fameuses dations aussi, comme si c'était difficile de s'y retrouver parfois.
Oui, il est vrai que sémantiquement c'est toujours un peu difficile d'expliquer les choses. C'est vrai que le mot mécénat peut donner à penser à une générosité absolument gratuite. Il en existe parfois. Il y a des gens qui donnent sans aucune contrepartie fiscale ou qui lèguent sans aucune contrepartie fiscale. Quand les époux Marcy Rivière, Jean-Pierre et Zeynep Marcy Rivière lèguent une cinquantaine d'œuvres de Bonnard et de Vuillard au musée d'Orsay, c'est sans aucune contrepartie. Ils n'attendent rien en retour. C'est un acte de générosité pure. Mais je crois que l'essentiel...
Et récemment, Ronald Perelman qui a donné 75 millions rien que pour le complexe artistique du World Trade Center, le nouveau site, on est loin des chiffres français. François Pinault ou Bernard Arnault dans un autre
mais
registre.
Mais non plus, la fiscalité n'est pas la même. Et surtout, historiquement, la sensation que c'est à l'État à faire ça n'est pas la même aux États-Unis qu'en France. C'est vrai qu'en aux États-Unis, l'action publique en faveur de la culture, en faveur de la santé, en faveur du sport, n'est pas de la même intensité qu'elles peuvent l'être en France. Donc c'est progressivement qu'il faut d'ailleurs installer dans l'esprit de nos concitoyens et particuliers, entreprises, que l'intérêt général, ce n'est pas que l'affaire de l'État, que chacun d'entre nous, dans une démocratie, est porteur d'une part de l'intérêt général. Et c'était ça le but premier de la loi sur le mécénat. C'était pas tant, c'était également naturellement de procurer de l'argent à des causes d'intérêt général, mais c'était surtout d'affirmer que chacun d'entre nous peut, par un acte économique, manifester son intérêt pour une cause d'intérêt général.
Élargissons encore le spectre et intéressons-nous pour finir à la politique culturelle. Vous avez été président de Beaubourg, je l'ai dit, président de l'établissement public du château de Versailles, bien sûr ministre de la Culture. Comment est-ce que vous voyez l'état de notre politique culturelle, notamment il y a des projets culturels, des candidats des primaires de droite. Certains ont fait des beaux projets, par exemple Alain Juppé, d'autres annonceront des choses. Comment vous vous situez par rapport à ces débats aujourd'hui pour refonder un ministère qui semble nostalgique de l'ère Malraux-Lange, disons?
Écoutez, c'est une ère c'est une ère glorieuse, mais c'est une ère révolue. Je crois qu'il faut pas tenter de la ressusciter de façon artificielle en faisant la même chose. Le contexte n'est plus le même, le monde n'est plus le même.
Quand on lit le projet d'Alain Juppé, très besogneux, donc il a beaucoup travaillé, mais on a l'impression que c'est un projet qui aurait pu être présenté à sa sortie de Matignon en 1997.
Non, c'est un projet de grande qualité, qui manifeste d'ailleurs l'intérêt d'Alain Juppé pour la culture, mais aussi la qualité des personnalités qui l'entourent. Il a autour de lui Bruno Racine qui a présidé la Bibliothèque nationale de France, Christine Albanel qui a été ministre de la Culture, Jean-Paul Cluzel qui a présidé la réunion des...
Virginie Calmes qui était le patron de l'Endemol.
Il y a des gens qui connaissent les choses et donc qui ont produit, je crois...
C'est celui qui a le meilleur projet culturel parmi les primaires de droite, vous trouvez?
Tous les candidats de la primaire n'ont pas produit encore un document aussi finalisé. Alain Juppé l'a fait. Mais j'aimerais que... Puisqu'on va voir au cours des prochains mois fleurir des programmes culturels, il y aura des programmes sur tous les grands domaines de l'action de l'État. J'aimerais qu'on sache sortir d'un certain académisme. Le ministère de la Culture est en très grande partie devenu le ministère des professions de la culture et le ministère de ceux qui déjà ont le désir de culture. Or, dans la société française d'aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est de savoir comment l'État peut concourir à ouvrir au maximum et même à la totalité de ceux qui vivent dans ce pays, qui ne sont pas toujours d'ailleurs nos concitoyens au sens juridique du terme, mais tous ceux qui vivent dans ce pays, le désir de culture, le désir également de partager.
Mais est-ce que ça ne passe pas par une plus grande stabilité des ministres de la culture? Vous avez eu déjà beaucoup de successeurs.
J'en suis suis, je crois, j'en fais régulièrement le calcul et puis je l'oublie aussitôt, mais m'ont succédé, en effet, Renaud Donne-Dieu de Vabre, Christine Albanel, Frédéric Mitterrand, Aurélie Philippetti, Fleur Pellerin, et aujourd'hui Audrey Azoulay.
Donc six successeurs presque un tous les ans et demi.
Dans cette espèce d'évanescence, il est impossible de construire une vraie politique culturelle, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut repenser, il faut se poser la question fondamentale de savoir à quoi ça sert une politique culturelle. Il faut se préoccuper plus de la politique culturelle que du ministère de la culture. Ensuite, s'interroger, je crois, sur le périmètre de ce ministère. Est-ce que ce ministère a toujours un bon périmètre, le bon périmètre?
Vous vouliez le supprimer à une époque.
Non, c'était une provocation.
Une boutade.
C'était une provocation.
Elle avait l'air sérieuse.
Non, mais parce que j'observais qu'il y a eu en France des politiques culturelles avant qu'il y ait un ministère de la culture. La 3e et la 4e République ont eu de belles politiques culturelles. Et il n'y avait pas un ministère de la culture au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y avait des services, mais pas de ministère de la culture. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut un grand ministère de la culture. C'est un ministère qui également s'intéresse à ce qu'on appelait dans l'organisation ministérielle de la jeunesse et des sports, qui intègre peut-être l'action culturelle internationale de la France. On ne peut pas indéfiniment séparer de cette façon l'action intérieure et l'action extérieure et se poser la question de la relation entre la politique de l'éducation et la politique culturelle. Ensuite, je pense aussi que l'organisation du ministère de la culture, du fait de la révision générale des politiques publiques, n'est peut-être pas le plus adapté à la mise en œuvre efficace de politiques culturelles.
Pour terminer, deux très courtes questions. Une sur les intermittents du spectacle, une autre sur les nominations culturelles sous François Hollande. Comment vous réagissez? Vous trouvez que le gouvernement Valls a été habile ou qu'il a noyé le poisson? On se souvient que vous aviez notamment, pour une part perdue, votre poste, ministre de la Culture, à cause des intermittents du spectacle. Et quant aux nominations, Catherine Pégard doit-elle être reconduite à Versailles, dont vous avez été le patron? Pense aussi aux nominations à Beaubourg, au Grand Palais, etc. Comment vous jugez tout ça?
C'est beaucoup de questions en une seule.
Pour
les intermittents, je trouve que le gouvernement, enfin, ou les gouvernements de François Hollande ont bien géré le dossier des intermittents du spectacle, qui n'est d'ailleurs pas totalement réglé, mais notamment en affirmant qu'il ne fallait pas que ce soit le seul ministre de la Culture qui porte ce dossier, mais que le ministre en charge du Travail et des Affaires Sociales soit également impliqué. Et donc Michel Sapin a été, avec beaucoup de fermeté, du côté des ministres de la Culture, et ces ministres ne sont pas retrouvés dans cette situation d'isolement où je me suis retrouvé en 2003. Le ministre des Affaires Sociales de l'époque, c'était François Fillon, ne m'aidant pas autant qu'il aurait fallu.
Dû ou pu sur les nominations?
Les nominations, moi j'estime que les nominations, c'est un attribut essentiel du ministre de la Culture. C'est l'expression, justement, c'est une façon de manifester la politique culturelle. En faisant une nomination, on ne fait pas simplement plaisir à quelqu'un, mais on fait un choix pour un établissement.
Mais de moins en moins de figures d'art, de plus en plus de techno, proches amis du président, ça ne vous choque
mais
pas?
Mais qui se révèlent parfois très, très, très bons. Le tout, c'est de bien choisir, mais en plus, éviter peut-être une trop grande, là aussi, volatilité des directions d'établissement. Il faut une certaine stabilité à la tête des établissements pour mettre en œuvre des politiques efficaces.
Je termine cette émission avec un hommage, puisque nous avons appris aujourd'hui la disparition de Claude Jean-Philippe, l'homme du Ciné-Club d'Antenne 2, comme on appelait alors France 2, et qui animait aussi l'émission Cinéma des cinéastes sur notre chaîne France Culture. Notre chaîne justement lui rendra hommage demain dans le Journal de la Culture et samedi prochain dans Plan Large d'Antoine Guillot. En attendant, je vous propose pour terminer cette émission de l'écouter. C'était dans À voix nue en 2012, où il évoquait sa conception de l'art. Claude Jean-Philippe.
Il y a deux façons de regarder l'art, je crois. C'est la façon du collectionneur. Je le garde et même éventuellement je le mets dans mon coffre-fort. Il est à moi. D'un côté, ce que je peux comprendre, mais en même temps, c'est dommage. Et l'autre façon, c'est la pédagogie. Tati m'avait fait ce grand compliment un jour de me dire « Vous êtes l'avocat du cinéma ». C'est vrai, mais rétrospectivement, j'ai l'impression que si je suis tout seul à aimer ça, il y a quelque chose qui me manque. Il y a un plaisir que j'ai du mal à analyser parce qu'il est naturel, parce qu'il est spontané. C'est l'envie de faire partager des émotions, des découvertes, etc., etc.
Voilà, on se quitte ce soir avec Terence Blanchard, le titre Breathless, Jean-Jacques Aillagon. C'est un morceau qui porte le nom et d'ailleurs du dernier album, le titre du morceau et le titre de l'album de ce jazzman donc américain, titre qui est un hommage à un certain Eric Garner, un jeune homme noir tué par la police américaine à New York dans le quartier de Staten Island en juillet 2014. Les derniers mots de la victime, relayés en masse sur les réseaux sociaux, étaient justement « I can't breathe » en français, « Je n'arrive plus à respirer ». Le jazzman Terrence Blanchard s'inscrit ainsi parmi les artistes qui s'associent au mouvement Black Lives Matter qui lutte contre les violences de la police américaine contre les Noirs aux États-Unis. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment Jean-Jacques Ayagon d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous. Dimanche... C'était trop court.
Oh, 1 heure, 60 minutes. Merci Léa Lejeune.
Merci.
Dimanche prochain, nous parlerons de Demos, un projet d'éducation à la musique classique en liaison avec la Philharmonie de Paris dont on recevra le directeur. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Dans un instant, il sera 20h. Vous retrouvez l'émission Secret Professionnel avec Charles Danzig. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.